Bonjour et bienvenue dans ce podcast du festival Ici sur Cour. On est un festival de courts-métrages qui existe depuis 2015 à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant le court-métrage pour le grand public. Pour cette 10e édition, on a voulu faire quelque chose de nouveau, en plus de nos projections habituelles, une table ronde autour de la santé mentale des scénaristes et des réalisatrices et réalisateurs, parce que derrière les sélections, les prix, il y a une face cachée, l'isolement, les refus, le doute, et l'idée c'était d'en parler franchement et surtout de façon positive, avec des pistes concrètes pour rester créatif et surtout garder la passion. La soirée a commencé par la projection du film Les Acharnés, un documentaire de Mathilde Boussac. Le film suit quatre réalisatrices et réalisateurs dans leur quotidien pour faire des films. Vous trouverez un lien en description. Bonne écoute! Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en DM et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter rapidement, en ordre, juste pour qu'on sache un peu qui vous êtes, genre en 30 secondes si c'est possible, hein, les points clés?
Allez.
À peu près.
Bonsoir. Bonjour. Moi, je suis Mathilde Boussac, donc la réalisatrice du film que vous venez de voir, Les Acharnés. Je suis réalisatrice et productrice dans la boîte de production O+ Production. Et voilà, actuellement en écriture de mon premier long métrage de fiction. Voilà.
Est-ce que tu as fait juste pour savoir aussi, est-ce que tu as fait une école particulière de...
Non, j'ai pas fait d'école. J'ai autodidacte. J'ai travaillé sur des tournages et puis je me suis lancée. En fait, j'ai pris des cours de théâtre et je me suis dit, ouais, j'ai plus envie de raconter des histoires. Être comédienne, c'est un vrai métier. J'ai appris en faisant des cours. Et non, mais c'est vrai, je voyais ça en mode ça va. En fait, pas du tout. C'est réellement compliqué. Et en fait, voilà, moi, j'ai eu envie de raconter des histoires. Donc, je me suis mise à écrire. J'ai fait mon premier court-métrage Tumultueuse, toute seule, avec beaucoup d'innocence. Hein, avec vraiment beaucoup d'innocence. Ouais.
Top, bah, merci.
Je t'en prie.
Et Koya, toi, si tu veux te présenter. Ah oui, un petit micro bonus.
Bonjour, moi je suis Koya, donc je suis réalisateur, auteur-réalisateur. Que dire de plus j'ai fait une fac de cinéma que je n'ai pas terminée. J'étais à Jussieu, Paris 7. C'était hyper intéressant, mais j'avais 11 heures de cours par semaine, je crois. Ça laisse beaucoup de temps à côté pour faire d'autres choses. Je suis passé après la fac, j'ai travaillé en télévision, j'ai travaillé chez Game One et MTV et ensuite j'ai travaillé chez Disney. Et en parallèle de tous ces chemins-là, moi je sais que je veux faire des films depuis que je suis enfant, mais ça semble tellement inaccessible, tellement impossible en fait qu'on ne fait que repousser, j'ai l'impression, le moment où on se lance. Donc voilà. Et bravo pour ton film parce que je trouve que on se reconnaît dans chacun des profils, c'est très impressionnant. Ouais, c'est hyper impressionnant.
Moi, ça m'a ému de petit on se reconnaît tellement, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et Koya, quand même, on peut dire que on a projeté un de ton précédent court-métrage Homesick ici sur Cour ici, mais c'était en
2020.
Je sais pas, c'était après le Covid.
Juste après le Covid, ouais, en 2020.
Qui était tourné au Japon, dans la no-go zone de Fukushima.
Tout à fait.
Et qui était pris ou pas pour les Césars.
Il était en présélection pour les Césars en 2021. Oui.
Voilà. Et là, quand même, il faut le dire que là, t'as fait un long métrage.
Et j'ai fait un long métrage qui est sorti cette année, en tout début d'année, en janvier, qui s'appelle Hiver à Sokcho, avec Roche Dizem et Bella Kim, qui est tourné en Corée du Sud, pour le coup. Et Bella Kim est actuellement fait partie des révélations potentielles pour les Césars. Donc, pareil, on est en campagne.
Ça, j'ai vu sur Instagram que là, il y avait des belles soirées.
C'est un peu ce que dit Ashraf, c'est-à-dire que là, lundi soir, j'étais au dîner des révélations, donc c'est totalement lunaire. Tu vois, tu as la table d'Isabelle Huppert, Virginie Efira, il y a Jonathan Cohen qui fait des blagues avec François Civil derrière. Et puis le lendemain matin, tu emmènes tes enfants à l'école, tu vas à la chimio de ta mère. Enfin, tu es vraiment dans la vie standard, quoi. En fait, ouais. Ce n'est que des espèces de moments qui ressortent, comme tu le disais tout à l'heure, sur Instagram. Mais c'est juste Instagram.
Et tout ça, voilà, on va en reparler tout à l'heure un peu de la vie. Je donne un micro ici, comme ça. Ce micro, comme ça, il reste par là-bas. Et toi, Pauline ?
Et moi, donc, je suis Pauline, je suis scénariste. Que scénariste, aucune velléité de réaliser, monter, trop de gens, trop de techniques. J'ai pas fait d'école de scénario. Moi, je viens du commerce. J'ai commencé à lire des scénarios à Studio Canal, en fait. C'était mon taf. Donc, c'est un très bon taf. Je me suis formée comme ça. Et très naïvement aussi, donc c'est important, c'est intéressant le mot naïf. J'ai écrit mon premier scénar parce que j'ai eu une idée, donc forcément, tu écris ton scénar parce que tu as une idée, quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce scénar a remporté un prix, donc ça m'a mis un peu sur la map. J'ai écrit d'autres projets qui ont remporté des prix, et je me suis dit, bon, ben, y a là, quoi, c'est bon. je suis scénariste. Donc j'ai quitté mon taf. Et à partir de là, ça n'a été que la galère vraiment des scénaristes, des vrais scénaristes, quoi. Donc voilà, pendant 6 ans, j'ai participé à des rooms d'écriture de diverses séries, divers diffuseurs, des films, mes projets à moi. Enfin, j'ai vécu la vie de scénariste tout à fait classique. Joie, déception, précarité, burn-out, harcèlement. Et voilà. Et il a fallu mettre en place un dispositif de survie il y a quelques temps parce que mon corps a dit on arrête, burn-out. Là, il faut s'arrêter. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me reconnecter à l'écriture, à ce que j'aime profondément. Je me suis dit, OK, ils ont eu beaucoup de choses, mais ils n'auront pas ça, mon amour de la dramaturgie. Donc, voilà. Donc, à côté, j'ai lancé un petit projet de newsletter d'écriture qui me fait énormément de bien, qui est un projet thérapeutique où je donne des conseils d'écriture. C'est Ashraf qui le dit aussi. Donner des outils créatifs pour que tout le monde puisse écrire, en fait. Et depuis 2 ans, je tire ce fil qui m'emmène dans des contrées que j'aurais jamais espérées. C'est-à-dire que j'ai mon bouquin d'écriture qui va sortir en avril, là. Je parle plus à des prods, donc en fait, c'est le paradis. Tous les samedis, j'ai ma newsletter, donc il y a un début, un milieu, une fin, next, on passe au prochain sujet. Et ça, c'est fait vraiment beaucoup de bien au cerveau. Donc voilà, donc je suis scénariste, mais aussi un peu plein de choses. Et en tout cas, j'aime raconter des histoires, comprendre comment ça fonctionne. Et je pense qu'il est nécessaire de donner aux créatifs comme nous les bons outils pour démarrer, parce que moi, j'étais beaucoup trop naïve au début. Et je pense qu'on va parler de tout ça.
Tout à fait, ouais, c'est bien, tu rentres dans le vif du sujet direct. Non, c'est bien, comme ça, on y va cash. Et d'ailleurs, tu peux peut-être juste donner le nom pour le public de ta newsletter, ouais. Parce qu'elle est top.
Merci, elle s'appelle Chic Chac. Parce que c'est des petits conseils, vite fait, bien fait, tchic-tchac.
Tchic-tchac. Et moi, je t'ai connu grâce à la newsletter, en fait. Ouais. Je suis un lecteur de la newsletter parce que ça donne plein de conseils d'écriture. Et c'est vrai que, par exemple, moi, en tant que scénariste réel, un peu isolé dans mon coin, ça m'a beaucoup aidé, justement, de voir des conseils. Parce que, quel que soit le sujet, par exemple, là, comment créer un bon antagoniste, là, c'était un des sujets récents. Quel que soit le projet sur lequel tu es, en fait, tu lis et ça t'inspire. Donc, je trouve ça top quoi, de faire ça.
Ouais, il y avait aussi un peu le truc de solitude. Là, tous les samedis matins, tu as au moins une meuf qui débarque dans tes mails, tu lis ou pas, selon ton humeur, mais qui te dit OK, t'es pas seule, c'est la galère. Là-dessus, tente ces trucs, si ça peut t'aider ou non. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est important. Après, je suis syndiquée, je suis de gauche. Hein, donc voilà, mais c'est important de montrer qu'en fait, notre corporation, il faut comprendre plein de choses, mais il faut aussi se sentir que. Enfin, bref, pardon, je vais trop loin.
Non, vas-y, on est là pour ça. C'est ce format table ronde, on a le droit de parler plus que. Dans le festival habituel.
Non, mais en fait, comparé à mes collègues qui ont des réelles compétences, vous êtes réel, vous savez faire des choses, c'est reconnu, vous êtes intermittent. Nous, en tant que scénaristes, on
c'est
ne
nous. Réelles compétences déjà.
Ouais, grosse compétence.
Compétences, mais attention, quand tu commences le métier, on te dit OK, tu es scénariste de quoi ? De comédie ? OK. Mais comédie comment ? Ah, genre sociétal ? OK. Ah, mais sociétal UGC ou Arte ? OK. Et donc, au fur et à mesure, on te fait descendre comme ça dans une espèce d'entonnoir. Et si après, par folie de ta part, tu veux faire de la science-fiction, là, c'est panique à bord, en mode « Mais attends, je croyais que tu étais scénariste de comédie UGC et tu veux faire de la science-fiction. Là, je ne sais plus dans quelle case te mettre. » Et là, c'est la panique à bord. Mais ça, c'est vachement insidieux, en fait, l'entonnoir dans lequel ils te font passer. Et en fait, ça les arrange de mettre les gens, ils, les grands méchants. Non, mais ça les arrange de nous mettre dans des cases pour plein de raisons structurelles, politiques. Alors qu'en fait, quand on est scénariste, on a des compétences de dramaturgie qu'on peut utiliser pour le scénario, mais si tu as envie, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses, des romans, même des boîtes, enfin juste tu as des compétences de dramaturgie. Et c'est important, parce qu'on en souffre tous, en tout cas avec mes collègues, mes copains scénaristes, en fait, on essaie trop de nous mettre dans des choses qui vont pouvoir répliquer si ça marche, et dans lesquelles ils vont pouvoir t'oublier si ça ne marche pas. Alors qu'en fait, si toi tu dis, moi j'ai une boîte à outils, je sais créer des histoires, en fait tu dis, t'as un peu un super pouvoir où tu peux aller partout. Et en tout cas, quand je parle avec mes collègues, on ne se rend pas compte qu'on a une compétence. On est en mode, non mais moi je sais faire que des scénarios de science-fiction ou que des comédies. Et je suis là, non, tu aimes ce genre, c'est ton choix. Mais si tu veux faire autre chose, tu peux.
Après, je pense que nous, en tant que réal, moi par exemple, comme je te vois, moi je ne me dis pas, tiens, c'est un scénariste de telle case. On se dit scénariste et tu sais écrire, donc ouais. Je pense qu'on ne se pose pas trop cette question. Nous, on a plus, en tant que réal, c'est parfois on dit il ne faut pas que tu sois monteur et réal ou pas chef-op et réal parce qu'on nous dit qu'il faut être que... une spécialité un peu en France, quoi. Toi, justement, toi, tu fais du montage aussi, toi, Koya. Toi, ça, t'as dû le cacher un peu ou ça va
Non, je fais pire que les montages. J'ai fait de la pub.
Waouh.
Ça, je l'ai beaucoup caché, effectivement, au début. Oui, je pense que c'est pas que je l'ai caché, mais contrairement à toi, moi, je suis arrivé avec zéro naïveté. C'est-à-dire que je suis au contraire, je suis arrivé avec beaucoup de pessimisme. C'est-à-dire que je sais que je veux faire des films vraiment, je pense, depuis que j'ai, je sais pas, 5-6 ans. Moi, mes parents aiment beaucoup le cinéma. Mon père, je pense qu'il aurait aimé faire des films. Et du coup, j'ai vu beaucoup de films avec eux. Et donc, vraiment, j'étais biberonné à ça et j'ai toujours voulu faire des films. Sauf que, je crois, bah, après le lycée, on te dit bah, comment on fait des films. Il faut faire une école. Il y a quoi? Il y a la FEMIS. La FEMIS, c'est une des plus grandes écoles étatiques françaises de cinéma, si ce n'est la plus grande. C'est une institution. Et donc là, tu te renseignes et tu vois qu'il y a pour la partie réalisation, il y a 7 places et tu regardes le nombre d'inscrits à chaque année, c'est 800 personnes pour 7 places. Donc je ne me suis même pas inscrit. Pour peu que tu aies un petit problème de légitimité ou de confiance en toi, ce qui est en vrai, je pense, le cas de beaucoup d'entre nous dans ces métiers-là, j'ai même pas tenté le coup. Et donc ensuite, bah, tu fais ta vie parce que tu dois quand même vivre, gagner des sous, etc. La vie fait qu'à un moment donné, tu as des enfants. Et donc du coup, tu vas vers ce qui, selon moi, était le plus proche possible du cinéma, mais qui me permettait de gagner ma vie à l'époque sans prendre trop de risques, parce que, encore une fois, je suis un sceptique. Et donc, bah ouais, j'ai fait 10-15 ans de publicité en tant que réalisateur. Donc c'était super parce que j'apprends énormément sur le plateau, sur les équipes, sur la fabrication. Mais c'est toujours pas du cinoche. Et c'est vraiment plus tard, moi, dans mon cas, à 36 ans, avec le film que tu as vu, Homesick, que vous avez diffusé, que j'ai commencé à écrire à 36 ans, justement, où c'est devenu irrépressible. Et en fait, j'avais besoin d'écrire cette histoire à ce moment-là, tout en sachant qu'elle n'allait jamais se réaliser, parce que ça parle d'un gamin de 8 ans, au Japon, en japonais, à Fukushima. Enfin bref, il y avait aucun producteur ne va suivre un projet comme ça. Et donc vraiment, le besoin d'écriture était irrépressible à ce moment-là. Et je pense que c'est ce jour-là que je suis devenu finalement un auteur réal, alors que je pense et veux faire ça depuis que je suis gamin. Et dans le chemin, oui, non, je pense que c'est même pas que je cachais des choses, je me les cachais à moi-même, en fait, pour rentrer dans la vraie vie.
Et là, par exemple, là, vu que c'est un peu le Graal pour nous de réussir ce que tu as pu faire, c'est-à-dire aussi déjà commencer par un court-métrage qui a été produit avec une bonne prod et de l'argent. Toi, à ton avis, comment tu as fait? Quelle était ta stratégie pour pouvoir réussir à être produit?
Comme je t'ai dit, j'avais vraiment zéro stratégie. J'ai écrit le film en me disant que j'avais besoin de l'écrire. Je l'ai écrit 2 ans après la naissance de mon fils. Et puis, il y avait la catastrophe de Fukushima qui a eu lieu en 2011. Et j'ai commencé à écrire en 2013. et donc, vraiment, c'était un besoin irrépressible. Et je pense que, du coup, je me suis mis aucune limite dans l'écriture. Et je pense que c'est ce qui a séduit, finalement, le producteur qui m'a suivi. Et d'autres producteurs, parce que peut-être que ça sortait un petit peu de ce qu'on lit d'habitude et où beaucoup de gens se mettent essayent d'écrire de manière astucieuse et maligne en écrivant quelque chose qui se passe dans un appartement. Et c'est un conseil que je donne parce que je comprends complètement, vraiment, il faut. Et moi, j'ai juste eu la chance d'être le projet qui n'était pas rentré dans cette case-là à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait. Et j'ai trouvé un producteur qui a envoyé au CNC. On a eu le CNC donc, qui est le financeur de l'État du cinéma en France. On a eu le CNC et Arte a suivi ensuite, comme tu le disais, comme il le disait dans le film. C'est le premier domino qui donne un petit peu le là derrière. Et donc, les choses se sont enchaînées assez rapidement sur ce film-là. Et ensuite, ce film-là m'a permis de me dire bon, bah, peut-être que la réalisation, peut-être que ce métier est quelque chose qui est envisageable. Moi, je travaillais chez Disney à ce moment-là, j'étais en CDI. Donc, j'avais toutes mes heures, toute la semaine. Et du coup, le soir et le week-end, je travaillais sur mon court-métrage, j'écrivais, je montais, etc. Ouais, j'avais déjà mon fils à ce moment-là. Donc, vraiment,
tu gérais tout en même temps là, en
fait. J'étais dans un moment où, en vrai, je suis très heureux parce que j'ai fait ce film, mais aujourd'hui, j'ai le luxe de ne plus avoir ce rythme-là et de me replonger dans ma famille. Et je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses avec mes enfants, alors que le film parle d'une relation père-fils. Donc, on est dans un truc qui est complètement absurde. C'est-à-dire que je fais le film pour montrer à quel point mon fils me manque, mais pour faire le film, je ne suis jamais avec mon fils. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui est... Ça va devenir fou, quoi. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus du tout quelle était la question à la base.
Non, mais c'est pour parler un peu de tout ça. Non, c'est bien. Voilà. Et justement, là, pour le long métrage, parce que là, tu as dû partir carrément plusieurs mois. Comment ça s'est passé? Même toi, comment tu as tenu le coup? Vu qu'on parle charge mentale aussi ou tout. Alors, est-ce que ça, parce que nous, on se dit, tiens, c'est cool, il a réussi à faire son long, mais toi, dans les coulisses, comment c'était
C'était dur, c'était très très dur. Et donc le long, c'est pareil, j'étais toujours chez Disney pendant que je développais le long. Donc quand j'ai développé, c'était l'écriture. Pendant que j'ai fait deux, trois sessions de repérage en Corée, donc je faisais des allers-retours. Donc il fallait que je jongle avec mon boulot pour pouvoir prendre tous ces congés-là. Je trouve que j'avais des boss qui étaient très compréhensifs, mais aussi que je jongle avec ma propre famille, parce que du coup c'était des moments où je laissais ma compagne seule avec, j'ai eu une fille entre-temps, donc avec mes deux enfants. Et en fait j'étais dans une phase, je pense les deux dernières années, j'ai tourné mon film en février 2023, et je pense que toute l'année 2022... Et ouais, fin 2021, j'étais vraiment que dans de la culpabilité en permanence. Quand j'étais à Disney, je culpabilisais de ne pas pouvoir écrire mon film. Quand j'étais en famille, j'avais la culpabilité de ne pas pouvoir écrire. Quand j'étais sur mon film, j'étais la culpabilité de ne pas être avec ma famille, et ainsi de suite. Je ne faisais que culpabiliser, tout le temps. Et donc j'ai quitté mon boulot. Encore une fois, je suis un sceptique, j'ai peur de faire le grand saut et j'ai besoin de mon petit confort quotidien. Et donc j'ai vraiment tenu chez Disney le plus tard possible, c'est-à-dire que je tournais le 17 février, j'ai fait mon pot de départ chez Disney deux semaines avant, quoi. vraiment jusqu'au bout du bout. Et voilà, et j'ai tourné le film à ce moment-là, et j'ai passé 3 mois là-bas, un peu moins de 3 mois. Je m'étais longuement interrogé avec ma compagne de dire est-ce qu'ils me rejoignent un petit peu pendant le tournage. Au final, on s'est dit que non, parce que justement, moi, j'allais culpabiliser de ne pas pouvoir bien m'occuper de pouvoir les recevoir. Eux allaient se sentir un peu exclus du truc. Et au final, ils ne sont pas venus. Et c'est ce que je regrette le plus aujourd'hui. C'est-à-dire que jamais je referai ça les prochaines fois. Et il faut qu'ils viennent le plus possible, le plus longtemps possible, parce que tu travailles. Moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un mois de tournage, t'es dans une espèce de machine à laver quand même tous les jours. Là, en l'occurrence, c'était loin de ma famille. T'es à le décalage horaire, donc je pouvais leur parler que à partir de 18h. Bref, il y a plein de choses qui font que t'es quand même dans un moment de solitude énorme. Et ton travail s'en ressent à un moment donné. Au bout d'un mois, je faisais juste ce que j'avais prévu, alors que tout le reste du temps, tu fais le découpage que tu as prévu, tu tournes les plans que tu as prévu, plus tu essaies de gratter plus, tu essaies d'avoir plus de plans, tu essaies d'obtenir plus de choses, de faire plus de prises. Toujours pour revenir sur ce que disait l'un des réels tout à l'heure. Et au bout d'un mois, j'étais vraiment dans le strict minimum. Et pendant 3 jours, j'avais qu'une envie, quand on venait me poser des questions, c'est de dire fais comme tu veux, ce sera super. Tu vois. Et ça, j'ai mis vraiment, je pense, ouais, 48 heures, un peu plus, peut-être 3 jours vraiment à me dire mais en fait, t'es un ouf, t'es en train de réaliser ton rêve. Et t'es tellement crevé et déraciné de ce qui te tient, et donc moi en l'occurrence c'était ma famille, que j'étais prêt à lâcher le truc. Et donc ça m'a remotivé, je me suis remis dedans, mais du coup pour la suite, plus jamais. Je pense que j'ai vraiment besoin qu'il soit là pour travailler correctement.
C'est ça, pour terminer sur le long. Là tu vas t'en reprépares un nouveau. Est-ce que là, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as un peu une philosophie que tu as développée de comment approcher le prochain long? Des conseils en fait pour...
Je suis hyper emmerdé parce que ce prochain projet, j'ai commencé à l'écrire avant le premier. Et si j'avais su, je ne l'aurais pas écrit au Japon, déjà. Parce que du coup, je sais que là, je vais me refaire à nouveau 3 mois au Japon, loin, les repérages, etc. Donc ma prochaine philosophie, c'est vraiment d'écrire un truc qui se passe dans le 10e arrondissement à Paris, près de chez moi.
Je reviens en base.
Voilà, ouais. Vraiment sur les basiques. Et... Non, en vrai, je pense que j'ai eu après le tournage une période où j'étais très heureux. Du coup, j'avais plus Disney. Je terminais le montage de mon film. Je commençais un petit peu à me pencher sur mes prochains projets et terminer l'écriture de ce deuxième film. Et je pense que j'étais dans le moment où j'étais le plus heureux de ma vie parce que financièrement, j'avais ce qu'il fallait grâce au long métrage. En tout cas, modestement, mais j'avais ce qu'il fallait. Et tout d'un coup, là, ça fait 3 ans que je vais chercher mes enfants à l'école, que je suis dans un truc où familialement, j'ai l'impression de me recentrer sur ce qui est vraiment important au final. Et pendant ces deux, trois dernières années, je me suis toujours dit, mais là, c'est tellement bien maintenant que je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller retourner un film, d'aller repartir, de me rééloigner. Déjà, même la promo du film, là, c'était dur de partir à tel endroit, pour 2 jours, 3 jours. C'est un truc où j'arrivais, alors que j'aime voyager et tout ça, hein, j'arrivais à un moment où, alors que c'est pour ce que j'aime, j'avais plus envie de ça. Mais dès que tu rentres un peu dans, dans le détail du film, j'ai relu le scénario, là je devais faire des propositions de casting, j'ai dû repartir pour faire des repérages, et dès que tu rentres dans le projet, tout d'un coup les images elles te viennent en tête. Et tu as envie de tirer le fil, et tu as envie de voir l'image, tu as envie de voir le visage que tu vas mettre dessus, tu as envie de voir dans quel décor tu vas trouver le truc. Et en fait, en une semaine de repérage, j'étais reparti, et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir tourner ce film pour le sortir de ma tête, justement, ouais. D'une certaine manière.
Tu retrouves même la passion, quoi.
Et ouais, exactement.
Pourquoi tu fais ça à la base,
ouais. Tu te souviens pourquoi tu l'avais fait, et qu'est-ce que tu aimes là-dedans, et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner.
Bah, top, merci beaucoup, c'est super intéressant. Et toi, Mathilde Mandel, avec le tournage de ce film, donc qui montre bien documentaire, qui montre bien tous les coulisses, est-ce que toi, ça t'a fait tirer un peu d'une philosophie ou des leçons ou des conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent se lancer dans le cinéma pour préserver en même temps leur santé mentale, pas péter un câble, garder la passion?
Bah déjà, moi, de faire le film, ça m'a fait du bien de ouf parce qu'on a été d'un coup, ça a créé une énergie familiale où on s'est tous retrouvés à se livrer nos vérités. Ils ont été très généreux dans leur sincérité. Enfin, c'est pas forcément facile de se montrer face à une caméra en disant voilà, moi j'ai pas de thune, je déprime, je sais pas si je vais y arriver et tout ça. Et ils le font. Donc ça a créé de toute façon une intimité avec eux. Je pense que en fait, le vrai conseil, c'est de pas faire semblant que ça va, parce que c'est un peu un truc qui se passe dans le cinéma. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai fait, le film. C'est de devoir jouer cette carte de ouais, ça va, j'écris, ouais, ça va, je suis en train de. Parce qu'il faut montrer qu'il y a un côté un peu, comme tu le disais tout à l'heure, instagrammable ou un peu hypé. C'est aussi ce qui fait une espèce de cote de réalisateur ou de scénariste. Et en fait, ça fait défaut. C'est-à-dire qu'on a toujours aussi l'impression que les autres font, que c'est pas si difficile, que c'est pas si douloureux pour eux. Alors que nous, on a l'impression qu'on est en totale galère, en fait. Donc, je pense que déjà, le premier conseil, c'est d'arrêter de faire genre, en fait.
C'est un bon conseil, en fait.
On est en galère, en fait.
Ça évolue un peu en ce moment, j'ai l'impression. Les gens se livrent
ça
plus
évolue, ouais.
Sur les difficultés, globalement. Même sur Instagram, il y en a qui disent « Là, je fais mon nom, mais j'ai galéré derrière. »
Ouais, ça évolue.
Mais là, justement, ton projet, ça va dans ce sens-là aussi.
Bon, en tout cas, j'ai trouvé que ça évolue parce que, justement, j'ai fait les acharnés et à chaque projection, il y a eu ce truc de « En fait, moi aussi, je voulais dire je galère et tout, machin et tout. » Et du coup, t'es là, bah ouais. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce qu'il y a eu beaucoup de moments où je me comparais et on vit dans un monde comme ça aussi. On voit, en fait, tout le temps ce que les autres font. Évidemment, Instagram, tu montres 10 secondes de ce qu'il y a de cool dans ta journée. Et du coup, bah t'as l'impression que toi, vraiment, soit t'as rien compris, soit t'es pas bon, soit je sais pas en fait, tu vois. Mais donc voilà, donc ça c'est le premier conseil. Vraiment, arrêtons de faire genre, c'est fatigant quoi.
En plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'aide disponible, et ça peut être nos amis qui ont l'aide, bah, c'est les gens autour de nous qui ont l'aide, donc on se compare forcément, on se dit pourquoi moi ça marche pas, mais c'est ce qui est déjà abordé.
C'est ça.
Alors que bon, c'est
mais alors qu'en fait, même les films qui marchent ou les courts-métrages qui ont très bien marché, moi j'ai des amis qui ont fait aussi des courts-métrages qui sont allés à Cannes et tout machin. Donc en fait, nous on voit le résultat, on voit la finalité, on voit Cannes, la quinzaine, machin et tout. Mais il y a des récits de films, vous imaginez même pas ce qui s'est passé. On sait pas vraiment les coulisses du truc. Et il y a quand même pas mal de galères sur chaque film. Il n'y a pas un film que je connais où on m'a dit « Ah non, moi c'était lisse, tout s'est bien passé. Ouais. » J'ai gagné autant de thunes que ce que j'ai travaillé. Bon, tout le monde m'a respecté. Il n'y a pas eu d'histoire entre les gens. Non, ça n'existe pas, en fait. Je connais ta première assistante à toi. Je peux démentir.
Est-ce que tu dis aussi un peu... C'est, bah, vu que tu as là, tu as filmé des amis. En fait, j'ai l'impression qu'un des conseils aussi serait de former des groupes.
Ouais,
tout seul, quoi.
Former des groupes.
C'est basique, mais c'est important, en fait.
Ouais, former des groupes. Et aussi, même en écriture, je pense d'avoir un peu ce truc de quirker, parce que la difficulté aussi de ces métiers-là, que ce soit scénariste ou quand t'es auteur-réalisateur, c'est que t'as aussi toute une phase d'écriture, et l'écriture, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est un métier qui est très isolant, tu vois. Quand t'écris, t'es seul, t'as beau dire, bon, j'arrive pas à écrire. Moi, il y a ma famille là dans la salle avec des gens avec qui je travaille aussi chez Oplus Productions et tout. Elles peuvent témoigner comment je les saoule avec ça, c'est-à-dire ouais, mais j'arrive pas à écrire, ouais, mais je comprends pas. Je pars des fois dans des trucs de je me demande si je suis légitime d'écrire. Enfin, c'est bon, en fait, juste vas-y, va écrire ta gueule, mets-toi une discipline et tout. Et juste ça peut être hyper éreintant. Chercher ce qu'on a à dire, être seul face à une feuille blanche, ça paraît hyper cliché et tout machin, mais c'est réel. Il y a un moment, c'est lourd en fait aussi comme truc, l'écriture. Et donc, je pense que soit d'avoir un co-auteur. Par exemple, moi, là, sur mon long métrage, le premier long métrage que je suis en train d'écrire, j'ai pris un co-auteur et je vois la différence totale. Il m'apporte évidemment d'autres compétences, la technicité. Comme moi, je n'ai pas fait d'école aussi, ça m'apporte un truc très, pas scolaire, mais très technique et une discipline aussi. Et après, on n'a pas forcément envie de co-écrire avec quelqu'un parce que je peux aussi comprendre qu'on a envie d'écrire certains sujets seuls et tout. Peut-être créer des bulles de « bon, bah vas-y, le lundi de 9h à midi, on se rejoint dans tel café, on fait des coworking et tout. » En tout cas, une forme de discipline ensemble, ça aide. Ça, moi, je trouve.
La discipline, c'est hyper important, mais c'est, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que malgré ça, je trouve que ce n'est pas tout parce qu'il y a un truc dans l'écriture qui est tellement virtuel. C'est-à-dire que, alors là, moi, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nora dans le documentaire quand elle dit « t'es dans le tunnel et tu vois la lumière au bout ». Pour moi, la lumière au bout, oui, il y a une lumière, mais tu sais pas si c'est le tapis rouge ou si c'est juste exactement la même lumière que là d'où tu viens.
Et ouais, mais elle dit, au pire du pire, je prendrai mon iPhone et exactement. Je le fais. Donc elle, au fond, elle a ce truc-là de se dire, bon bah, si c'est pas avec des prods, si c'est pas avec des financements, si c'est pas avec une distribution pire, derrière, bah tant pis, je trouverai le moyen de le faire.
Sûr. Mais du coup, il y a ce truc d'incertitude, justement, de savoir s'il y a un projet. Et en plus, le cinéma, c'est long. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu écris et le moment où tu as les premières réponses de commission, il peut se passer 3 ans, 4 ans facilement. Et du coup, là, moi, je suis en train de commencer à écrire un troisième, quatrième projet. Je n'ai même pas fait le deuxième film. Donc, dans le meilleur des cas, on parle d'un film qui potentiellement pourrait se tourner, si jamais on n'est pas que des robots qui font des films, dans 8 ans, 7 ans. Je veux dire, à quoi bon, tu vois, de quoi on parle? C'est totalement abstrait. Non, en fait, je préfère.
Après, moi, un des trucs qui me fait tenir aussi, parce qu'on se prend souvent des refus, des commissions, d'un peu tout, même les prods, où ils disent ah, toi, tu sors tes tripes dans ton scénario, on te dit ah, ça marche pas. Oh, c'est pas très intéressant.
La réponse est qu'est-ce que tu veux raconter exactement?
Voilà, ça. En fait, moi, ce qui me fait tenir, en tout cas, après chacun, moi, c'est d'avoir plusieurs projets en même temps, en parallèle. Comme ça, s'il y en a un qui bah, il avance pas trop, moi, je me focus sur l'autre. Et j'écris des projets qui peuvent être finançables, qui peuvent, je pense, où j'essaie d'avoir des financements officiels. Comme ça, ça avance dans les tunnels, parce que ça met 6 mois dès qu'il y a une commission, il faut attendre. Et en même temps, j'écris des projets où je me dis, ceux-là, je peux les autoproduire, comme ça. Je peux, même si je ne les fais pas forcément. Mais je me dis, si je veux, je peux le tourner avec pas trop d'argent. Et ça me donne un peu d'espoir aussi pour me dire, je peux tourner. Après, chacun ses techniques. Hein, je sais pas, moi, c'est d'avoir plusieurs projets. Pas un seul, sinon je pèterai un câble. Mais après, il y en a qui font qu'un seul. Hein, je sais pas, mais...
Non, moi, c'est le cas aussi. Moi, j'ai plein de projets, mais je suis dans la phase là où je suis en train de me dire, est-ce que je me plante pas?
Oui, ou est-ce que je
parce qu'avec plein de projets, est-ce que je me demande, est-ce que je me disperse pas un peu? Alors, j'en ai deux seuls et deux où j'écris avec d'autres. Et déjà, il faut faire matcher les calendriers des uns des autres pour commencer à avancer, pour peu qu'on soit par accord. L'écriture peut prendre du temps, mais en même temps, c'est quand même un petit peu dans ta tête. Tout ça, c'est du temps que tu ne passes pas à travailler sur un autre projet sur lequel tu es seul et dans lequel tu pourrais avancer plus vite. Et tout ça, c'est du temps que tu ne passes pas à gagner de l'argent pour faire manger tes enfants. Donc, tu es à nouveau dans un truc où, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais je suis en train de m'interroger sur est-ce que je ne me trompe pas, justement,
c'est des questions.
À passer sur 2, 3, 4 projets.
Et là, je me demandais juste pour Pauline, toi, juste pour revenir à toi aussi en tant que scénariste, c'est à un moment, tu as dit que tu étais en burn-out carrément. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, pour dépasser cette phase
Ouais. Je suis allée me réfugier chez mes parents et on a beaucoup marché avec mon père. Mmh. Ça paraît naïf comme ça, mais en fait, il y a un truc de retour aux sources. On revient, on se recentre, on refait bouger le corps. Parce qu'avant le burn-out, en fait, il y a une dépression. Ça ne vient pas juste en mode « coucou, burn-out ». En fait, c'est un truc qui est lancinant. Et en fait, moi, c'était un burn-out parce que... plein de choses. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Et notre cerveau préhistorique, il a l'habitude, quand on tape sur un arbre très fort, l'arbre, il se casse. Donc, en fait, ce que tu fais a des conséquences. Quand on est à la 8e version de ton scénario, que ça n'avance pas, et que tu as ça sur tes 3 autres projets, en fait, le cerveau, à un moment, mais je pense que c'est chimique, hein, il ne comprend plus. Parce que notre cerveau est fait pour qu'on avance, pour qu'il y ait une avancée, qu'on voit surtout que nos actions ont des conséquences. Et le problème des réécritures à outrance, c'est que ça nous flingue, vraiment, je pense, d'un point de vue chimique. Pas que d'un point de vue moral, j'y arrive pas, machin. Je pense que d'un point de vue chimique, au bout de 5 ans, où t'as bossé en tout sur 15 projets, et c'est toujours pareil, je pense que ça flingue. Donc moi, ce qui m'a fait du bien, c'est déjà refaire bouger mon corps. C'est très con, mais le cerveau a besoin d'avoir... les sportifs, quand ils se concentrent très très fort sur une tâche, il y a donc le cerveau qui lâche de l'endorphine. enfin, je ne sais plus le nom du truc, je ne suis pas du tout Jamie, hein, vous ne m'en voulez pas. En gros, tu as le corps qui bouge, donc ça lâche des endorphines, et le cerveau, du coup, l'effort, il lâche des trucs nocifs, mais comme tu as le corps qui bouge, ça bouge. Ça sort de toi, donc ça, c'est bien. Nous, scénaristes, on fume du cerveau et on ne bouge pas. Et donc, tu as toute cette fumée qui reste en toi, ce n'est pas de la fumée, vous me comprenez, qui reste en toi, et ce n'est pas bon, et ça pollue.
Et donc, tu refais du sport plus aussi.
Voilà, donc déjà, repousser, aller dans la nature. Mais toi, tu marches beaucoup, donc tu vois le truc, l'importance de marcher toi, régulièrement.
Moi, pour dire, parce que les gens ne savent pas, mais moi, souvent, ce qui me fait tenir aussi pour ne pas péter un câble, c'est de... Je pars plusieurs semaines dans la montagne chaque année tout seul.
Ouais, mais c'est
juste
important.
Pour faire du bas, pour déconnecter quoi.
Ouais.
C'est de déconnecter aussi avec tout.
Déconnecter avec
marcher.
Tout. Ce qui fait beaucoup de bien, c'est d'être entouré. Donc, comme tu disais, avoir des copains qui te lisent, qui te relisent, avoir potentiellement aussi de rejoindre des syndicats. Ça, c'est bien parce que ça met en colère, mais la colère, c'est bien parfois. Et surtout, tu te rends compte que c'est pas contre toi. C'est vraiment systémique. Nos collègues scénaristes des années 1920, ils avaient les mêmes bordels avec les producteurs que nous, en fait. Donc ça permet de prendre de la hauteur, ça c'est toujours bien. Et après, d'un point de vue purement écriture, moi, ce qui me faisait beaucoup de bien... alors en fait, moi, j'étais un peu le pompier des gens qui... c'est leur quatrième film, par exemple. Ils veulent un peu quelqu'un qui les aide à faire toute la structure, qui les aide à écrire et tout. Et donc moi, j'arrivais à ce moment-là. Donc moi, j'étais à la fois pompier, psy, architecte. Et ce qui me permettait que quand j'allais sur mes projets à moi, d'être juste en mode créative. Donc moi, j'arrivais bien un petit peu à scinder les trucs. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai souvent eu toujours 2-3 séries en même temps que 1 ou 2 films. Donc j'avais quand même cette souplesse de bosser pour des gens ici. Ok, lui, il est comme ça. Elle, par contre, c'est comme ça. Et donc ça me permettait un peu de switcher et bah, tout le temps d'être en mode sur mon truc à moi. Donc moi c'est ça, c'est le collectif, c'est ne pas oublier que on est un corps et pas qu'un cerveau, et quand on est scénariste c'est vraiment très important. Et, et par contre ouais, pour garder la petite flamme, c'est savoir dire non, savoir poser ses limites. Moi il y a des choses maintenant où le gars il me dit ça en premier rendez-vous, j'y vais même plus, je suis en mode très bien, et tu le sens en fait. Tu le sens quand le gars il vient de pitcher sa série, il veut créer sa room et tout. Donc il fait passer des entretiens et durant l'entretien, pendant 1 heure, il ne pose pas une question. Bon, bah bisous, enfin, tu vois. Tu le sens tout de suite, les gens qui viennent chercher vraiment une équipe, qui cherchent à comprendre.
C'est bien aussi d'apprendre à dire non, parce qu'au début, on se dit, bon, s'il y a un truc, je prends parce que.
Ouais.
C'est la légitimité aussi, tu te dis, bon, ben je prends, il y a un truc, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu gagnes en confiance.
Ouais, parce qu'en fait.
Plus de projets aussi, hein, mais.
Mais oui, t'as raison, au début, tu dis oui à tout, parce que t'as trop peur et tu sais jamais, truc et machin, mais. Au bout de 5-6 ans, on en parle, enfin, on fait un peu un point d'étape des soldats en mode oh, ça t'en est où toi? Et là, enfin, on se rend compte tous que en fait, tous les plans qui nous ont fait du mal, d'une manière ou d'une autre, en fait, on le savait dès le début. Et on n'aurait pas dû y aller. Et en fait, ça ne vaut pas, rien ne vaut, mais c'est mon point de vue à moi, hein, rien ne vaut de laisser sa santé. Rien ne vaut de laisser sa santé. C'est-à-dire que si tu es sur un plan qui est super parce que c'est HBO ou je sais pas quoi, où tu es censé être payé de temps, mais qu'en fait, le gars, c'est un gros harceleur.
Parce qu'il y a tout ça aussi, les gens toxiques, le harcèlement.
Le harcèlement, la manipulation.
Après, voilà, il faut pouvoir dire non.
Le chantage sur l'argent et tout. Moi, mais c'est peut-être moi maintenant, mais c'est un peu ce que tu disais sur ta famille. À un moment, il faut revenir à qu'est-ce qui est important, tu vois. Toi, c'est ta famille, moi, j'ai pas encore d'enfants et tout, mais moi, il y a un truc de... en fait, non. Tu sais quoi non, enfin, je suis une travailleuse, en fait. Je suis pas là, tu vois, ton esclave pour la grandeur de ta série... En fait, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois être en mode c'est super important et c'est beau et cette histoire, on va la mener à bout, et en même temps, mais c'est pas important. En tout cas, ça vaut pas la santé de quelqu'un d'autre, je trouve. Donc, se parler entre nous, très important. Nous, enfin, dans le syndicat dans lequel je suis et tout, il y a vraiment un truc de ok, je viens d'être contactée par tel producteur, est-ce qu'il y a des red flags? Et juste, tu dis non, c'est bon, tu peux y aller, ou juste écoute avec moi, il y a eu ce problème. Par rapport à ça, mais peut-être c'est contextuel, donc juste tu en fais ce que tu veux. Ou alors c'est monde, non, fuis en fait. Fuis parce que sur ces 5 dernières séries, il a harcelé 4 meufs. Là, il y a un truc, il est au pénal sur tel truc. Et juste en mode, bon, bah, au moins si tu y vas, tu sais que potentiellement, ouais. Tu vois. Donc,
et c'est vrai que même pour les réals, souvent, bah, c'est un conseil aussi, si vous présentez le projet à une prod qui est intéressée, bah, déjà il faut se renseigner avant sur la prod, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter aussi à demander, si vous voyez à la prod, quel film elle a fait avant, aller contacter les réals avec qui elle a travaillé pour demander ce qu'ils ont pensé de la prod. Parce que même si le film est top, si c'était dans des conditions horribles, voilà, il faut mieux le savoir. Et puis il y a des prods super sympas aussi. Hein. Parce que là, on fait les prods, mais il y en a des super sympas aussi. Donc après, il faut les identifier, en parler entre nous, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça.
et ne pas croire que c'est les prods qui ont le pouvoir. Ça, c'est très important de croire. Enfin, forcément, pour eux, ils nous font croire ça. En fait, c'est dans l'ordre, hein, je suis désolée, mais c'est les scénaristes qui ont le pouvoir. Ensuite, c'est le couple scénariste réel. Et ensuite, tu as l'intermédiaire qui est le producteur, qui peut nous aider à aller voir un diffuseur et tout. Mais moi, je pense que de toute façon, enfin voilà, c'est important. C'est tellement un métier où on nous rabaisse constamment. Parce que comme ça, ils ont le pouvoir de pouvoir nous jeter à chaque instant, de ne pas nous payer. Est-ce que c'est de l'argent à risque pour eux et tout ça ? On comprend. Mais non, en fait, c'est sans histoire, il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'à regarder la grève aux États-Unis.
Non, mais c'est clair que.
Voilà. Ouais, sans créateurs, il n'y a pas leur business, en fait. Donc c'est juste. Voilà, ils ont des grosses techniques de gros lobbyistes. Là, on l'a vu au mois de décembre, politique. Là, ils sont tous copains avec Rachida Dati, très bien. Mais en fait, si on se met en grève, vous n'avez plus rien.
Donc c'est... En tout cas, ouais, c'est être en équipe. Voilà,
faut juste.
Là, je regarde juste le timing parce que je vois qu'il ne reste plus énormément de temps. Juste pour qu'il y ait des questions. Je vais donner la parole au public, peut-être s'il y a des questions, pour qu'on ait encore une dizaine de minutes.
Rachida Dati dans la salle, je suis foutue. J'espère qu'elle n'est pas là. Non.
Est-ce qu'il y a un micro pour le public, si vous voulez réfléchir à une question ? Je me dis parce que là, il ne reste que 10 minutes, donc ça passe vite. Alors, s'il y a une question, après, pas fort. S'il n'y en a pas, après, on enchaîne. Non, mais... Ah, s'il y en a... Oh, il y en a une là-bas. Vas-y.
C'est bonjour. Bon. Salut Koya.
Salut Hakim, ça va ? Bonjour, je t'avais pas vu,
il y a un fan.
Je m'appelle Hakim. En fait, je ne suis pas du tout auteur ou scénariste ou réalisateur. Je suis assistant réalisateur. Et avant de passer à ma question, j'aimerais juste vous encourager, vous les Français, je crois que parmi vous, la majorité des Français. Moi, je ne suis pas du tout français, ni comme le film de Les Acharnés disait, que non, je ne suis même pas immigré d'origine... je ne suis pas français d'origine originaire d'immigration, mais je suis immigré en première génération. Parce que mon rêve, c'était de venir en France où il y a le duo d'Eldorado, pour au moins le système de CNC, subvention partout, et l'intermittence. Ça n'existe nulle part sur cette planète. Il y a Belgique et Corée du Sud, mais quand même, c'est même pas comparable.
On a quand même de la chance d'avoir le dispositif.
Effectivement. Et je ne dis pas que vous êtes privilégié que ce soit, mais ça m'a pris quand même 10 ans de venir en France. Par contre, je vis comme Suleiman, toujours. La vie de Suleiman, enfin l'histoire de Suleiman, moi je regarde, putain, mais c'est mon autobiographe. Moi j'ai donc épargné mon argent pendant 10 ans pour revenir en France, et dès que je suis arrivé en France, en fait, je suis Suleiman. Mais, et donc en fait, pourquoi j'aimerais vraiment participer à cette table ronde, c'est que parce que je savais que même parmi vous les Français, vous aussi qui ont déjà réussi un peu, ça galère. Et je like tout le temps quand même des posts de quoi merde avec Isabelle Huppert et tout. Oui, mais je sais qu'il y a deux gosses. Et je parlais aussi avec un autre réal hier qu'il a réalisé 3 longs métrages, mais qu'il a arrêté parce que en fait il ne veut pas payer leur pension machin. Donc il a complètement arrêté alors qu'il a réalisé 3 longs métrages.
Après, je pense qu'il faut aussi bien... le cinéma n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a les films sur lesquels j'ai l'impression que nous sommes, et il y a les films de marché, qui sont des genres de films et qui ont des financements qui sont très différents. Et effectivement, je pense que... tu parlais de l'histoire de Suleiman, par exemple, Loshkin, que j'ai rencontré pour le coup plusieurs fois. Lui, il fait 3 films, et je pense que chaque fois, le film d'après, c'est une autre galère. Et exactement comme nous, il continue à galérer, alors que l'histoire de Suleiman a remporté tous les prix, était à Cannes, a fait 800 000 entrées, 700 000 entrées, je crois. Enfin, énorme. Par contre, j'ai pas de nom, évidemment, là, précisément, qui vient. Si, voilà, Olivier Barrault qui a fait Les Tuches, 1, 2, 3. Lui, je pense qu'il n'y a aucun souci derrière pour faire les films suivants. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment scinder le cinéma en France et tout le système dont tu parles, le CNC, l'intermittence, et là, justement, pour faire vivre aussi les films plus modestes, qui sont en général les films d'auteur, du coup. Et c'est cette catégorie-là qui dans laquelle on galère, clairement.
Et puis aussi, si je peux me permettre, c'est aussi les premiers films, c'est toujours plus compliqué, même si deuxième, troisième film et tout, ça peut être compliqué.
Moi, j'ai compris que le deuxième était plus compliqué.
Ah ouais, tu trouves ?
Parce que le premier, on te donne ta chance, c'est-à-dire que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher.
Encore, c'est pour ça qu'on dit ça, mais
et que,
on n'a pas encore eu la chance de...
Mais t'avais fait Homesick ?
C'était moi un court-métrage, moi je parlais du long.
Mais comme Homesick, il avait cartonné, ça a été plus facile aussi d'aller sur le...
Complètement, on est complètement d'accord.
C'est aussi si je peux me permettre.
Tu fais un court-métrage qui arrive à bien vivre.
Oui, le court-métrage de Coé, ça a été un énorme succès l'année où il est sorti, je m'en souviens très bien. Et c'est mérité et tout ça, mais genre, ça a été un énorme succès. Et quand tu as ce parcours-là aussi, où d'un coup, ton premier court, il cartonne en parcours de festival, le premier long, il est plus facile à faire, tu vois, comme Roman et Lise qui ont fait... là, c'est le deuxième long, c'est Ma Frère, mais elles avaient fait un film aussi qui avait cartonné. Et derrière, elles ont fait Les Pires, tu vois. Ouais. Et ça a été... Quand t'as un vrai carton de court-métrage, ce qui arrive de temps en temps, mais sur la majorité de ceux qui font du court-métrage, tous les parcours ne sont pas comme ça. C'est pas pour autant que les parcours sont mauvais, mais le gros carton que toi, t'as eu, ça reste rare, tu vois, même dans la vie du court-métrage.
Complètement. Et ce qui est dur, c'est que ton court-métrage te permet de faire ton premier long. Et le problème, c'est que moi, je pensais que le premier long était le plus difficile parce que on sait pas quitter, on sait pas d'où tu viens, on sait pas ce que tu vas faire. Et le problème, c'est que le deuxième peut être plus compliqué que le premier parce qu'on sait ce que tu as fait. Et pour peu que le premier se soit pas exactement, se soit pas bien passé pour le coup, le deuxième, tout d'un coup, devient plus compliqué.
Non, mais c'est vrai. Nora, par exemple, elle a fait HLM Pussy, donc de toute façon, le premier long, il a été compliqué, comme vous le voyez dans le film. Elle a mis 10 ans, donc quoi qu'il arrive, ça a été compliqué. Et là, le deuxième, c'est aussi compliqué. C'est d'autres complications parce qu'il y en a déjà un premier qui est sorti dans les salles et tout machin. Mais c'est d'autres complications. Mais tu vois aussi que c'est compliqué. Après, c'est vrai que l'histoire du premier long aussi, si on peut le dire aux gens aussi, c'est que c'est aussi une histoire de chiffres sur lequel aussi bien derrière sûr. On t'attend énormément. Et alors, t'es pas attendu sur un premier long comme Olivier Barrault avec Les Tuches, évidemment, on n'attend pas les mêmes chiffres. Mais en fonction du chiffre du box-office, ça va te propulser facilement pour un deuxième long ou ça va être un peu plus compliqué. Bah, voilà, encore aller un peu ramer tout ça.
Complètement.
Et après, juste après, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Soit si tu veux clôturer. Ouais, ou...
En tout cas, moi, juste ce que je dis, c'est que, et c'est ce qu'on se dit par exemple avec Ashraf et Maxime. Ashraf, déjà, il a un proverbe, un peu un poncif à l'Ashraf, où il dit voilà, sur un premier long, tu sais que tu te fais niquer, au moment où tu fais ton premier long, tu vois. Ouais. Donc, ça dépend, on parle plutôt d'argent, hein, dans le sens, on n'est pas OK pour accepter le harcèlement, machin et tout. Mais sur l'argent, on sait que par exemple, tout ce qu'il va falloir fournir comme travail pour faire un premier long, ça ne sera pas équitable. Mais il faut aussi un moment passer à l'action pour machin, on a envie de faire des films. Donc, des fois, il faut savoir un peu...
Je pense que l'argent n'a jamais été le moteur, c'est ce qu'ils disent.
Oui, bien sûr.
Tous, ça, et à aucun moment, l'argent est un moteur.
C'est ça, mais ils ont
besoin. Après, c'est tu pèses le pour et le contre. Enfin, c'est pas que tu pèses le pour et le contre, tu ménages la chèvre et le chou. Tu fais comme tu peux pour continuer à vivre et faire des films, sachant qu'il y a d'autres métiers qui payent beaucoup plus. Ouais.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a une question encore? Ah, vas-y, devant, là. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on va essayer de répondre un peu synthétiquement.
Pardon, je fais très très vite.
Non, mais
En fait, c'est même pas une question, c'est juste qu'il y a une pensée qui me venait. Moi, je suis réel scénariste et dessinateur, donc j'ai un pied dans le monde de la bande dessinée en même temps. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que c'est les auteurs, c'est les créatifs qui ont le pouvoir. Je trouve que c'est hyper important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du festival d'Angoulême cette année. Voilà, eh ben, les auteurs...
Tu peux expliquer un peu pour les gens.
Alors, le festival d'Angoulême, c'est l'équivalent du festival de Cannes pour la bande dessinée. C'est vraiment le festival renommé international, etc. Et cette année, il y a eu beaucoup... Enfin, depuis pas mal d'années, je vous la fais très courte, ça, c'est un gros bordel. Depuis pas mal d'années, il y a des problèmes d'organisation, il y a du harcèlement, ça se passe très, très, très mal. Et cette année... Et je précise que c'est d'abord les autrices qui ont parlé, exactement, et qui ont décidé de boycotter le festival. Et ensuite, il y a certains auteurs qui ont suivi, de plus en plus et de plus en plus. Pour finir, la totalité des auteurs ont refusé d'aller au festival, ce qui a fait annuler le festival. Et donc, tous les plus gros éditeurs de bande dessinée, les Dupuis, les Casterman, les Lombard, etc., personne n'a pu sauver le truc, alors qu'ils voulaient vraiment. Hein, ils ont vraiment tenté jusqu'au bout du bout de sauver le festival. Et donc, c'est les créatifs qui ont le pouvoir, c'est sûr.
C'est important, ça. Est-ce qu'il y a une dernière... Parce qu'on a un peu dépassé le temps, mais c'est une dernière question. Je crois qu'il y avait un bras levé ou pas. Non, c'est bien. On est dans le timing, comme ça. Là, juste pour clôturer, peut-être... vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous avez là les projets à venir? Vous en avez déjà un peu parlé, mais pour clôturer. En ouverture, ou faire une petite pub, si vous voulez, pour par exemple, le livre que tu vas... Si tu peux passer le micro. Non, vas-y, commence. Ton actu, tout ça.
Mon actu.
Bon, tu peux.
Il y a ma newsletter qui sort tous les samedis. Il y a mon bouquin qui va sortir en avril, où en gros, c'est... je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Tic-Tac dans la salle. Peut-être. Oh, bonjour. Voilà, donc en gros, mon bouquin, c'est mes méthodes pour dépoussiérer un peu la dramaturgie. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, à m'intéresser à tout ça, je ne comprenais rien, à Trouby, Mackie, mais je ne captais pas, hein, vraiment. Je t'en ai dit, très bien, comment on fait. Voilà, donc bref. Voilà, et moi, je n'ai pas de projet d'écriture. Pour l'instant, je m'éclate à tirer ce fil de partager ma manière de voir la dramaturgie, de proposer des outils marrants. J'ai lancé mes formations, ça se passe super bien. Donc voilà, suis-je encore scénariste? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me diversifie.
C'est ce que t'aimes, quoi, c'est ça qui est important.
Ouais, c'est ça. Et puis j'ai le choix, en fait. C'est-à-dire que si maintenant un prod vient me voir avec des mauvaises conditions, que ce soit humaines ou financières, oh, je vais pouvoir dire non. Et c'est un truc de ouf.
Dans le stress financier aussi.
Mais oui, et en fait, non. Maintenant, je dépends. Il y a ma news qui tourne, mes formations. Maintenant, j'ai à nouveau confiance dans mes capacités de scénariste. Parce que toutes ces années où on te roule dessus, au bout d'un moment, si t'as un cerveau et que tu te remets en question, tu te dis, bon, bah, peut-être que en fait, je suis pas une bonne scénariste. Ce qui est dingue quand on y pense, parce que tous les scénaristes qui sont dans le milieu, ce sont des bons scénaristes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la moindre des choses pour être dans ce milieu, être bon. Ensuite, si tu veux performer, il faut savoir gérer l'humain, le financier, le stress, le machin. Mais en tout cas, là, tout le monde est bon, tu vois ? Donc voilà, pour moi.
Formation, newsletter, tic-tac, on va donner le nom.
Donc moi je tourne mon prochain long en automne si tout se passe bien. Donc c'est au Japon, c'est un polar dans le milieu de la décontamination de Fukushima.
Tu fais simple. Voilà,
voilà toujours. Voilà. Le but c'est vraiment accessible, quoi. Vraiment se faciliter la vie, pas se passer la rate au courbouillon. C'est vraiment ça mon objectif. Et dorénavant, je n'écrirai donc que des films qui se passent en bas de chez moi, et ce sera très bien comme ça. Non, et voilà, et d'autres projets d'écriture à droite à gauche, et comme je le disais tout à l'heure, peut-être trop, donc un peu de ménage à faire. Donc pas de pub pour l'instant, mais voilà, merci beaucoup d'être là. Si jamais vous êtes votant dans l'Académie des Césars, n'hésitez pas à voter pour mon film. Mais à part ça, rien du tout. Merci beaucoup d'être là.
Et moi. Je suis que sur un projet de long métrage. Je ne pourrais pas écrire 15 projets en même temps, pour le coup, à l'opposé. Je suis en écriture actuellement avec Fabien Comois, qui est mon co-scénariste, sur mon premier long métrage, avec une certaine discipline pour le moment. Et à côté de ça, on a ouvert une boîte de production. Donc, Les Acharnés au plus production, c'est donc moi-même et Elsa Pasqua qui est dans la salle. Et on a un film qui est à Clermont la semaine prochaine, dans 15 jours exactement. Donc on va à Clermont pour Mur de Basile Charpentier qu'on défend là-bas. Donc cool, voilà, on est content.
Trop bien, merci, on peut les applaudir bien fort. Ouais, on va dessus. Je voulais rajouter d'ailleurs, ça me faisait penser à plusieurs petits tips peut-être, des choses que j'aurais aimé savoir moi avant. C'est par exemple, moi ça m'a beaucoup aidé quand même de lire plein de livres sur le scénario pour même me sentir plus légitime parce que je suis aussi autodidacte. Et j'en ai acheté plein ou loué à la médiathèque à Issy-Moulineau, il y en a plein d'ailleurs. Et en fait, il y a je sais pas si vous connaissez la bibliothèque François Truffaut à Paris, au Halles, il y a une bibliothèque dédiée au cinéma. Et il y a des tonnes de, il y a tout ce qu'on veut quoi, dans tous les bouquins sur les genres, l'écriture. Moi, je ne connaissais pas, en fait, c'est gratuit même, on peut s'inscrire gratuitement, louer les livres. Ouais. Donc là, ça m'aurait économisé de l'argent. Donc je donne l'info pour ceux qui ne savent pas, parce que même de squatter là-bas, c'est cool, quoi. Tu vois plein de livres, ça t'inspire.
Et moi, c'est un truc qui m'a aidé des fois, quand j'étais un peu découragée, c'est de regarder le parcours des gens. Donc j'ai passé
biographies aussi.
Énormément de temps à regarder le parcours d'une J.K. Rowling. Je connaissais l'anecdote, mais je relisais 10 fois qu'elle était, elle avait plus un sou, que tout le monde avait refusé Harry Potter. Je le connaissais depuis longtemps, mais par exemple, j'y retournais, les sportifs aussi. Je regardais de ouf leur biographie. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a aidé. En fait, pour tout le monde, il y a eu un moment de galère intense. Ça, on se dit, mais est-ce que je vais pas lâcher? Donc en vrai, ça aide aussi, se dire, ah ok.
Puis je pense que ce qui compte, c'est la détermination. Nous, si on est là, c'est qu'on est déterminés, en fait, c'est les acharnés.
Et voilà, c'est ça sur quoi, en tout cas pour ma part, je voulais finir, c'est que dans le film, oui, ils racontent leurs problèmes et tout, mais chaque réalisateur dans le film a une passion quand même, et ils finissent toujours par dire, quoi qu'il arrive, j'ai envie de faire ça. Nora, elle dit, malgré tout, je me taillerai les veines pour commencer. Achraf, il a envie de faire que ça. Maxime, s'il faisait pas du cinéma, il serait pas lui-même. Enfin voilà, ça les habite, quoi. C'est pas, oui, c'est compliqué. Mais ça les habite. Ils sont vraiment très passionnés. Ça. Donc ça aide aussi.
Même aussi, mais avant, je me disais, il faut absolument que je fasse mon nom, c'est que ça l'objectif. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est, bah, après, c'est un peu classique, mais c'est le chemin aussi. Que,
ouais, le
même si tu n'arrives pas à le faire, au moins, tu as rencontré plein de gens. Comme là, par exemple, on se parle en festival, il y a des publics qui sont là. Vous, vous venez, après, on peut parler avec vous à la sortie, comme on va faire juste après. Mais voilà, c'est de la... Oh, je fais une petite transition. Mais non, mais c'est comme ça. Même moi, au début, j'allais dans les festivals, je ne connaissais personne. J'étais là tout seul. Puis après, je voyais quelqu'un tout seul, je fais, ah, t'es tout seul aussi. Et après, ça devient des potes, bah, ou pas, mais voilà, c'est, on rencontre des gens. Et dans les tournages qu'on fait, quels que soient les tournages, on rencontre plein de gens qui sont passionnés, donc ça, ça fait plaisir, quoi. C'est déterminer, continuer.
Ouais, puis au pire, le faire, c'est ça. Moi, les acharnés, j'ai pris une caméra, je l'ai fait. Hein. J'ai pris une caméra, un micro. Enfin, le film, il n'y a pas 6 millions de budget dessus, ça se voit, je sais. Mais il y a aussi...
Il faut faire, quoi.
Faire. À un moment, il y a plein de gens qui ont envie de faire aussi. Il y a plein aussi de... Même des jeunes qui sortent des écoles de cinéma, de techniciens, ils sont vachement en demande aussi de « Ouais, s'il y a moyen d'eux » et tout. Et en fait, même... Par exemple, moi, mon étalonneur, c'est quelqu'un qui fait du long métrage et tout, qui a une boîte d'étalonnage de post-production, de FX. En vrai, il n'avait pas trop mon temps. Hein. Mais... ça, je sais pas, la manière dont on lui a parlé du projet et tout, il s'est dit bon bah j'y vais. Donc en fait il y a aussi ce truc là où tout n'est pas noir, les gens ont aussi envie d'aider
et
transmettre et tout ça. Et donc moi j'avais pas d'argent, personne n'a été payé hein, sur le film. Bon ça va, ils sont quatre, on fait une discussion entre nous, tu vois, donc ça va, ce serait abusé qu'ils me demandent de payer. Mais en gros il y a plein de gens qui ont aussi envie de faire. Et il faut juste leur proposer, est-ce que ça dit de machin, mettre des trucs sur Instagram et ça. Enfin, ça se fait aussi comme ça aussi. C'est pas non plus qu'un truc d'argent, de trucs de machin.
Ah oui, il faut y aller, il faut contacter les gens, même s'ils sont connus, il faut essayer.
Exactement.
Ça coûte rien d'essayer, en fait, il faut essayer.
Exactement. Enfin, moi, ça marche. Je dis ça parce que, contrairement à toi, je suis grave optimiste. Toi, t'es sceptique. Mais moi, j'ai grave l'impression que ça va le faire, tu vois. Et en vrai, ça le fait aussi, tu vois.
Il faut y aller, quoi. Si t'as la bonne vibe aussi, ça met en confiance les gens.
Voilà.
J'ai qu'un regret, c'est de pas avoir commencé plus tôt.
Ah oui, ok. Ouais, vraiment.
Tu peux le dire dans le micro, s'il te plaît, pour comme ça.
J'ai qu'un seul regret. c'est de ne pas y avoir cru plus tôt, justement. Et du coup, de m'être auto-censuré pendant trop longtemps.
C'est pour ça, je pense, le mot de la fin. C'est vraiment d'y aller, quoi.
Ouais,
y a pas de, pas en fait, on se trouve toujours des excuses, mais il faut y aller, quoi. Même
c'est
si ce ne sera jamais parfait, ton scénar, il faut y aller quand même.
Oui, il ne sera jamais parfait. Ça ne plaira jamais à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, tant que tu l'as fait, au final, à la base des bases, tu le fais parce que tu as un truc à dire, tu vois. Voilà.
En tout cas, merci encore. On peut réapplaudir.
Merci à toi en tout cas pour cette table ronde, pour cette projection et merci à vous.
Merci.